France Culture.
Soyez les bienvenus dans les Midis de Culture. À 13h, je reçois le réalisateur et plasticien islandais Línur Pálmason pour un film absolument merveilleux, L'amour qu'il nous reste, qui est en salle la semaine prochaine. Mais tout de suite, place au Point Culture de Sophie Catherine Gallet. Bonjour Sophie Catherine.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et bonjour à tous. La saison de l'Ukraine en France vient de débuter. Une initiative portée par l'Institut français et l'Institut ukrainien avec des événements présents sur tout le territoire. Comment écrire, comment créer en temps de guerre à fortiori quand on est sur le front? Arthur Drone, poète, s'est engagé dans l'armée ukrainienne dès les premiers jours de l'invasion russe. Âgé de 25 ans, il est déjà vétéran de guerre à la suite d'une blessure. Il répond à nos questions à l'occasion de la sortie en France de son recueil « Nous étions là », paru aux éditions Bleu et Jaune et traduit par Nicole Tube. Arthur Drone, bonjour. Et bonjour également à Irina Dmitrichine, qui sera votre voix française durant cet entretien. Arthur Drone, vous avez servi dans l'armée ukrainienne jusqu'à être blessé à la suite de l'explosion d'une mine. Vous êtes également poète et votre recueil de poèmes écrits sur le front, « Nous étions là », vient de paraître en France. Vous y parlez notamment de la question du langage. Lorsque l'invasion russe a débuté, on comprend que les mots d'avant vous semblaient obsolètes, incapables de raconter le présent. Est-ce qu'il s'agissait pour vous, par la poésie, de réinventer votre propre langue, de l'investir autrement?
Oui, je pense que pour beaucoup d'entre nous, ont eu l'impression que la langue, la littérature, les mots ont perdu leur sens après cette invasion à grande échelle. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue, parce ce qui comptait le plus, c'est notre survie. Le travail le plus important, c'est se joindre aux forces armées et nous défendre tous. Et donc, à l'époque, je ne pensais pas à la langue, j'étais un peu désespérée. Et ensuite, j'ai compris, certes, la langue ne peut pas nous protéger, mais la langue peut beaucoup d'autres choses. Elle peut fixer ce qui se passe, elle peut sauver que cela ne disparaisse pas, elle peut fixer, noter et nous assurer que personne ne réécrira cette histoire. Peut-être ce n'est pas la fonction de la langue que nous aimerions avoir pendant la guerre, mais au moins il y a cela, c'est important. Pour moi, ça a un sens et j'essaye d'utiliser la langue afin de fixer, de se souvenir et de raconter l'histoire des autres, parce que ce sont les histoires des gens ordinaires pendant la guerre et c'est la chose la plus importante que nous ayons. Et c'est dans ce sens que la langue doit travailler.
Il y a une franchise brutale dans certains de vos poèmes, une capacité à encapsuler l'horreur, la tristesse dans la banalité d'un repas qui peut faire penser d'ailleurs par certains accents au poète français Jacques Prévert. Je pense notamment à votre poème Romco. Est-ce que c'était pour vous une forme de pudeur devant l'indicible pour éviter aussi le lyrisme qui serait peut-être pas à la hauteur de cette brutalité, de ce réel?
Pour moi, c'est aussi et avant tout le moyen de parler des choses les plus importantes. Pendant la guerre, il y a beaucoup de cruauté, notamment des crimes des Russes. Et par chance, les écrivains sont nombreux et ils fixent tout cela. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est de transcrire cette humanité, cette part de lumière que les gens peuvent trouver même dans les circonstances les plus cruelles. Et dans ce poème, Romco, c'est l'histoire de mon camarade. Ce qui comptait le plus pour moi, c'est de fixer ce que nous apprécions le plus chez lui et ce qui continue à exister même après sa disparition. Ça ne peut pas le faire revenir, mais la langue peut fixer, la langue peut nous rappeler, la langue peut réunir tout cela en mots pour que le lecteur français puisse lire au sujet de notre Romco et de la salade qu'il nous préparait au front. C'est triste, bien évidemment, mais cela ajoute un peu plus de sens à ce que nous continuons à faire, à vivre, et nous pouvons justement parler de lui.
Alors, dans votre poème « Enfant », vous écrivez « Nous parlons rarement d'espoir ici, ou de patriotisme, ou de pays natal. Quand nous en parlons, c'est toujours d'enfant qu'il est question. Et tu sais, quand je pense à toi, à présent, c'est l'enfant que tu étais que j'imagine. Cet enfant qui plissait les yeux face au soleil. Ceux d'entre nous qui auront survécu demeureront longtemps silencieux. Car à quoi bon parler d'espoir quand il se tient debout devant vous, avec son short maculé de boue, grattant ses bras mangés par les moustiques, montrant ses dents de lait au soleil ?» C'est l'amour qui vous a permis de mener ce combat ?
Oui, j'avais envie de dire dans ce poème que lorsque nous parlons des militaires qui défendent l'Ukraine, qui défendent la liberté, ce n'est pas toujours des choses grandes, la compréhension géopolitique de l'État, les idées nationales, etc. Souvent, il s'agit des choses plus terre-à-terre et plus humaines, que dans ma famille, ma femme sont menacées par les Russes. Et c'est pour ça que je m'engage pour les défendre. La plupart de nos militaires, ce sont des gens ordinaires qui représentent toutes sortes de professions sauf l'armée et qui aujourd'hui se sont retrouvés dans la situation où leurs proches sont menacés de mort. Ils s'engagent pour les défendre. À l'évidence, ces gens ne parlent pas des hautes matières ou des catégories telles que la patrie, le patriotisme. Ils disent que leurs filles leur manquent, qu'ils ne voient pas comment leur leurs enfants grandissent, mais la meilleure chose que je puisse faire pour mes enfants, c'est d'aller les défendre lorsque la mort les menace. Et c'est le sens de ces discussions sur les enfants. Toute conversation au sujet de la vie, de la liberté, de la protection, c'est justement la conversation au sujet des gens que nous devons défendre. Et peut-être il y a des gens qui sont plus heureux, mais nous, nous devons être là et nous devons assurer sinon notre vie meilleure, au moins une meilleure vie pour eux.
La saison de l'Ukraine en France vient d'ouvrir et on parle beaucoup de la culture comme bastion de la résistance. L'écriture, mais aussi le chant, ont été les lieux d'une résistance parfois chuchotée sous la domination de l'URSS. Vous citez plusieurs auteurs dissidents ukrainiens de l'époque soviétique dans votre ouvrage. C'était important pour vous de construire une lignée comme ça entre eux, de eux jusqu'à vous ?
Oui. Cet héritage, cette continuité entre les générations des écrivains est importante pour moi. L'histoire de l'Ukraine est telle que les Russes détruisaient nos écrivains et pendant des décennies et des siècles, nous étions dans la situation où cette continuité était interrompue justement, littéralement, par la destruction physique de ces personnes. Ma génération a la chance de vivre dans la situation où vivent ceux qui sont dans la littérature dans les années 90, 80, 2000. Nous sommes dans le même espace aujourd'hui avec Lina Kostenko, qui est notre plus grande poétesse des années 60. Il était toujours important pour moi d'avoir ce sentiment que je pouvais m'appuyer sur quelqu'un. Mais dans les conditions de guerre et pendant la guerre, ce lien devenait encore plus important avec ceux qui ne sont plus là, mais qui combattaient le même ennemi. Je me souviens toujours de ce poète ukrainien Vassil Stous, qui avait été tué par les Russes il y a 40 ans. 40 ans ont passé et hier, justement, dans le cadre de la saison ukrainienne, nous avons parlé de l'écrivain Volodymyr Makounko qui a été tué par les Russes en 2022. Nous avons parlé de l'écrivaine Victoria Amelina qui a trouvé son journal qui, elle aussi, avait été tuée par un missile russe dans une cafétéria et était tuée dans la rue Vassil Stous. Donc c'est le même ennemi et ce combat commun nous réunit davantage. Ce sont des textes des écrivains qui m'ont précédé de plusieurs générations, mais on y voit toujours des choses concrètes à notre sujet en 2005-2025, et c'est ainsi que travaille la littérature.
Et votre recueil contient notamment des mots envoyés par des écoliers aux soldats, reproduits tels quels. Pourquoi vous avez choisi de les intégrer à votre recueil et que provoquait-il quand vous les receviez en quelques mots ?
C'est la meilleure poésie que j'ai jamais vue. Ces paroles des enfants sont la sincérité, la franchise même avec laquelle ils écrivent aux enfants, la façon dont ils comprennent la défense, la protection, ça émeut toujours même les militaires les plus aguerris et il est très important au front de recevoir ces lettres où une petite fille de la maternelle de la ville de Lviv remercie pour le fait de pouvoir aller tranquillement dans un café et c'est au nom de ces enfants ça valait la peine de s'engager et de traverser toutes ces épreuves, les défendre.
Merci beaucoup Arthur Drone et merci à Irina Mitrichin pour la traduction et l'interprétation. Et à noter qu'Arthur Drone présentera son livre ce soir à partir de 18h30 à la librairie Gros Câlin, rue de Miroménil à Paris, et que se déroule jusqu'à samedi, toujours à Paris, mais au Théâtre de la Concorde, le festival Ukraine, un souffle de liberté. Un grand merci enfin à l'Institut ukrainien et aux éditions Bleu et Jaune pour avoir permis cette interview.
Merci beaucoup Sophie-Catherine Gallet. Il est 13h, vous êtes sur France Culture.